c'est Willy Sagnol. C'est Willy.
Allez, salut à tous, bienvenue dans Ici c'est Willy sur RMC. On est ensemble jusqu'à 20h avec, comme tous les vendredis, Franck Leboeuf, François Pinet et Jean-Louis Tour. Salut messieurs.
Salut patron.
Salut Willy.
Salut Willy.
Soirée, Willy.
Bien sûr, c'est le patron pendant 2 heures.
Tu veux t'appeler Captain?
Non, mais tu veux pas appeler ma femme pour lui dire de m'appeler comme ça aussi?
Non, à la maison, c'est pas ça.
Ah, j'adorerais ça.
Ah, oui,
ça serait mon rêve absolu.
Tu veux que ta femme t'appelle patron?
Ah ouais, ouais. T'aimerais pas toi?
Mais moi, j'ai mes employés qui m'appellent patron. Je suis producteur, donc j'ai mes comédiens, ils m'appellent patron.
Et comment ça fait?
Ta femme en fait pas partie?
Ça fait rien, franchement.
Non,
ça fait même bidon. Ça fait, tu sais.
Bah, t'es un gentil patron, je suis sûr.
Ouais. Je paye un peu trop largement, je trouve.
C'est vrai?
La fois que je fasse ça, je resserre un petit peu tout ça.
Aïe, attention à la grève.
Ah, c'est pas mal ça.
Attention à la grève.
On peut bosser ensemble?
Non, mais toi, tu
es acteur.
Ouais, non, mais t'es pas acteur. C'est pas inné chez toi.
Ah bon?
T'es un travailleur.
Ah bon?
Oui, t'es un travailleur.
Mais t'as aucun talent, hein, en gros, c'est ce qu'il veut dire.
Mais t'as pas de talent.
Voilà. Très bien, merci. Je le prends comme un compliment. Peut-être pas comme ça qu'il faut le prendre.
Travailleur, c'est un compliment. Ouais,
ouais, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr.
Bon, en tout cas, on a un gros programme.
Alors, je fais une émission gastronomique l'année prochaine à la télévision. Peut-être je te prends.
Bah, avec plaisir. Hein? Il y a des plats à goûter?
Ah, ben tu ne feras que ça. Tu seras le goûteur.
Vas-y, je viens gratuitement. On y va donc, le PSG dans une seconde avec le retour de Leonardo. On continue d'en débattre. On va aussi évoquer le dauphin des Parisiens, le LOSC. Vu la tournure du mercato, l'équipe sera-t-elle forcément moins compétitive la saison prochaine? On fera le débat avec Coach Courbis et Rio Mavuba qui connaît parfaitement le club. À 18h30, on continue ce qu'on appelle depuis 2 semaines le Dugatour des clubs. Saison de Monaco au programme et la perspective de celle qui arrive. On sera avec un spécialiste de la question. On commence donc par le PSG. L'arrivée de Leonardo rappelle déjà des souvenirs aux supporters parisiens.
44 millions d'euros de transfert, un contrat de 5 ans entre 4,5 et 5 millions d'euros de salaire par an.
Thiago Motta arrive à Paris.
C'est désormais officiel. Ezequiel Lavezzi sera donc le tout nouvel atout offensif des Rouges et Bleus.
Marquinhos est officiellement parisien pour les 5 saisons à venir.
Présentation officielle de Thiago Silva.
Je suis très heureux pour annoncer l'arrivée d'Adelson Cavani.
Vous avez choisi de jouer avec Zlatan.
Hello everybody.
Arriver un joueur de cet calibre, c'est quelque chose d'énorme.
Ici.
Voilà, on a pu redécouvrir les joueurs recrutés à l'époque par Leonardo lors de son premier passage à Paris. Son arrivée, son retour devrait être officialisé lundi au plus tard, selon nos informations. Il est dans la capitale et multiplie les rendez-vous pour se mettre au travail. Alors avec ce retour, le PSG va-t-il automatiquement redevenir attractif? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Willy, toi, t'as un petit bémol sur Leonardo,
ouais,
sur ta liberté d'investir.
S'il suffisait que Leonardo revienne pour que le PSG redevienne attractif, ça serait un peu trop simple. Après, je pense que le PSG a, depuis maintenant de plusieurs années, est toujours attractif. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient venir à Paris, ça j'en suis persuadé. Après, moi je le redis,
on a l'impression qu'il y a plus de ratés dans le mercato ces derniers temps qu'à l'époque de Leonardo.
Ouais, mais quand attention les gars, quand Leonardo arrive, il y a tout à faire.
Oui.
C'est-à-dire, il y a tout à construire. Donc, il fallait deux centraux, un arrière-droit, deux milieux, deux attaquants. Donc, là, c'est aujourd'hui, quand on regarde Paris, on est plus sur du recrutement ciblé par rapport à des profils bien définis. Donc, ça, c'est plus dur. Ça, c'est plus dur à avoir.
Oui, oui.
Mais Leonardo, c'est quand même quelqu'un qui a voyagé. Qui a un petit peu la bougeotte, je trouve, moi, personnellement, je trouve qu'il aime pas rester au même endroit trop longtemps. Pourquoi, je sais pas, il faudrait un jour arriver à lui poser la question. Mais en arrivant à Paris, voilà, il a eu un carnet de chèques des Qatariens, un carnet de chèques énorme, sans limite. Et forcément, dans le football, quand t'as pas de limite, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu le vois actuellement avec le Real, Zidane arrive, pareil, petit carnet de chèques. Tu recrutes autant que tu veux.
Est-ce que c'est juste ce carnet de chèques qui a permis ce recrutement ou est-ce que c'est aussi la connaissance de Leonardo, son réseau, sa façon de mener des négociations qui ont permis d'avoir autant de bons transferts?
Très bien, mais c'est quoi un bon transfert? C'est d'avoir un grand nom ce sont des mecs qui, par rapport à ce que tu payes, te ramènent quelque chose?
Il a fait les deux pour
Verratti,
le
coup.
Verratti. Alors, il a fait les deux.
Marquinhos.
C'est quand même lui qui a la base. Du projet sportif du PSG, t'as le PSG, ils n'ont pas encore fait une demi-finale de Champions League.
Oui, d'accord, mais.
Ah, c'est faut pas dire oui, d'accord, Jean-Louis.
Bah, est-ce que ces recrues ont été un échec?
Mais si elles t'amènent pas à l'objectif initial qui était de gagner la Ligue des Champions, c'est un échec. Tu peux pas dire, on recrute Cavani, Ibrahimovic, Verratti, Thiago Silva, Thiago Motta, Marquinhos, Pastore, parce qu'on veut gagner la Champions League. Et si tu la gagnes pas, ça veut dire que c'est un échec.
Francky, comment tu vois les choses, toi?
Moi, je trouve qu'il y a déjà un charisme chez Leonardo qui fonctionne bien au niveau de l'attraction pour amener certains. Je trouve qu'il sait faire et il sait manœuvrer. Après, c'est vrai qu'il arrive à un moment donné où il n'y a pas le fair play financier. Enfin, en tout cas, pour le PSG, il peut, open door, recruter un mec comme Pastore à 46 ou 48 millions à l'époque. On pourrait plus le refaire parce que c'est le fair play financier qu'il faut faire super gaffe. Alors, ils ont fait Paredes pendant l'hiver, ce qui n'a pas été une gloriole dans à peu près les mêmes tarifs, mais c'est pas extraordinaire. Maintenant, je pense qu'il a permis au PSG de passer certains échelons, mais qu'il n'a pas prévu avec ces joueurs-là que ça suffirait pas pour gagner une Champions League. Parce que les joueurs qui sont là et qui sont de l'ère Leonardo ne te permettront pas, je pense, de gagner une Champions League. Il faut renouveler. Sincèrement, je pense que le PSG, s'il veut garder certains joueurs qui sont là depuis très longtemps, et je pense notamment à Thiago Silva, peut-être à Verratti aussi, c'est pas avec ces joueurs que tu vas gagner une Champions League, ou même peut-être Cavani aussi, mais il faut passer à un autre niveau, niveau de l'ère de maintenant, c'est-à-dire des joueurs qui sont au top du top et qui vont t'amener quelque chose, et le recrutement laisse à désirer. Le nouveau défi pour moi de Leonardo. Je pense que c'est une très bonne chose. Il connaît la maison, il y a joué, il a apporté certaines choses. Maintenant, c'est wait and see parce qu'on n'est pas vraiment dans le même leitmotiv que l'on était quand il est arrivé.
Ah oui, on n'est pas dans le même leitmotiv. Et moi, j'ai la sensation, quand on parle de Leonardo, on oublie un petit peu toute rationalité.
Oui.
Je pense qu'on.
Il est trop beau. C'est pour ça.
Non, mais attends, c'est un beau mec. Il a le sourire, il parle bien. Tu vois, il a l'accent.
Ah oui, c'est il y a un charisme.
Voilà.
Ouais.
À un moment donné, il y a un charisme. Un charisme, il ne fait pas tout. Et moi, quand on analyse des performances de joueurs, d'entraîneurs, de directeurs sportifs, je pense qu'il faut rester dans la rationalité et il faut dire voilà, ça a été bien, ça a été moins bien. Moi, par rapport à ce que Leonardo a fait les deux années où il est arrivé au PSG, il a fait venir beaucoup de monde. À un moment donné où il y avait rien, donc et avec un puissant fond,
il pouvait piocher
autant qu'il voulait.
Même si à l'époque les montants étaient moins importants que quand même après son départ.
Il arrivait à persuader.
Là, le PSG a beaucoup dépensé.
Voilà, il arrivait à persuader peut-être avec des mots, avec un carnet de chèques, j'en sais rien. Certains joueurs qui était peut-être réticent à venir. On sait qu'Ibrahimovic est un peu réticent à venir.
Non, mais si tu doubles les salaires, c'est plus facile.
Je sais que c'est plus facile, mais à un moment donné, t'as les grands joueurs, à un moment donné, même si tu leur doubles le salaire, ils te disent non, moi je veux pas venir. Ouais. Alors, il a fait des bonnes choses, il a été pioché Verratti, ça c'est très bien.
Ça c'est très bien. Ouais.
Mais, comme je dis, aujourd'hui, t'es dans une dynamique où t'es dans un recrutement beaucoup plus ciblé.
Oui. Ce sera pas la même histoire.
Voilà. Pour juger Leonardo, il faut juger aussi tout ce qu'il a fait. Donc, il faut juger aussi son passage au Milan.
Oui.
Mais alors, le passage, mais Jean-Louis, au passage au Milan,
il n'y a pas le même argent.
Quand il est arrivé, ils ont dépensé, je crois que c'était presque 200 et quelques millions d'euros pour une équipe qui n'a même pas réussi à attraper la Champions League et pour un club qui s'est retrouvé dans les hors clous fair play financier comme le PSG.
Et qui finit avec 130 millions de déficit cette année, je crois.
Donc, comme avec le PSG, c'est-à-dire que pas partout, je ne veux pas dire ça, mais les deux clubs, Leonardo passe en tant que directeur sportif, ses deux dernières expériences, c'est beaucoup de dépenses.
Oui.
C'est pas les résultats escomptés et c'est dans la merde parce que t'as le fair play financier qui te regarde. Donc à un moment donné, je pense qu'il a fait des très bonnes choses, mais il en a aussi fait d'autres qui étaient moins bien.
Mais il faut
rester rationnel pour ça.
Il y a quelque chose d'économique qui arrive, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le PSG a besoin de 30 millions, ils viennent de vendre Diaby. Alors que c'est quand même le futur du PSG. Tu te dis où sont vraiment les objectifs, comment ça va fonctionner quand Leonardo, parce que ça c'est encore l'ancienne équipe. Quand Leonardo va arriver, il va apprendre que Diaby est parti, que peut-être d'autres.
Non, je te rassure sur une chose. Leonardo, quand il est venu la première fois, pendant deux ans, il s'en est complètement foutu du centre de formation.
Ça fait partie de ses missions là, de relancer le centre de formation.
Mais c'était sa mission il y a 7 ans quand il arrivait aussi, de dynamiser ce centre de formation. T'as tous les mecs comme les Coman et Kingsley et compagnie qui sont tous barrés parce que la porte était toujours fermée.
Ouais. Alors, il y a quand même un truc, parce que tu dis il y a une irrationalité autour de Leonardo. C'est assez simple en fait, c'est parce que ce sont les supporters qui sont assez irrationnels, les supporters PSG avec Leonardo, parce que on a l'impression qu'il va remplir tous les vides qu'il y avait dans la politique sportive du PSG. Très simple, mais les supporters reprochent à la direction actuelle de ne pas faire de trouvailles, de ne plus recruter des joueurs méconnus qui vont exploser, type Verratti. Qui a fait Verratti? C'est Leonardo. On reproche à... Bon, on peut citer Marquinhos aussi, on peut trouver d'autres.
Marquinhos, il était titulaire à la Roma. Et il
C'est vrai qu'il n'était pas des spécialistes. Enfin,
Non, mais je suis d'accord. Après, mais moi, si j'étais supporter,
il y a un autre truc aussi. L'autre vide qui va combler et que reprochent les supporters, c'est le quotidien, c'est la gestion.
Mais je suis d'accord.
Et on se rappelle qu'il était capable de s'opposer à Ibrahimovic quand il fallait et de secouer aussi parfois les joueurs.
Non, mais ça, d'accord. Si j'étais supporter
du PSG,
si j'étais supporter du PSG, que tu me dises, Antero Henrique part et Leonardo revient,
t'es content.
Ben, je fais péter le champagne aussi. Parce que Antero Henrique, il a jamais protégé une fois ce club.
Il y a un crédit avec Leonardo, il y a un crédit, un passé de joueur, un passé de connaissances déjà, et qui fonctionne encore bien auprès des joueurs aussi. Un Antonio Henrique a dû séduire.
Est-ce que t'imagines Leonardo aujourd'hui aller voir Mbappé et lui dire, écoute-moi mon gars, arrête. Arrête un peu avec tes sorties.
Ah ben ça marchera mieux qu'avec.
Tu penses qu'il va le faire?
Faut l'espérer.
Ça marchera mieux qu'avec Antero Henrique.
Je sais pas, je demande.
Antero Henrique, le mec qui rigole avec Leonardo, il écoute peut-être.
Bah, s'il l'a fait avec Ibrahimovic la première fois, il est capable de le faire avec Mbappé.
Mais moi, j'en suis persuadé que lui, il est capable de le faire.
Moi, j'espère qu'il le fera.
Mais s'il va le faire, t'as un doute.
J'en sais rien. Je sais pas.
Qui peut parler à Kylian Mbappé?
Non, mais aujourd'hui, notre rôle, ici, quand on en parle dans ce débat, ce n'est pas de vendre des choses fausses, c'est simplement de dire, voilà, il revient. On pense que c'est une bonne chose parce que celui qui était avant lui et c'est celui qui était encore avant, Kluivert, enfin c'était deux catastrophes.
Ouais.
Donc il revient. Par rapport à ce qu'il a fait, c'est une très bonne chose. Après, c'est situation différente. C'est du réchauffé.
Oui, il faut être rationnel, comme tu dis.
C'est comme un mec qui, c'est comme on dit souvent entre nous. C'est tu passes 2 ans avec une nana, tu te sépares et puis 5 ans après tu la retrouves. Et t'es peut-être heureux de la retrouver, mais ça sera plus les mêmes. C'est plus les mêmes équilibres dans la relation.
Oui, c'est ça.
Donc là, ce sont des choses différentes aussi. Mais moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'il arrive. Qu'il nous sorte des très bons joueurs, qu'il arrive à faire partir certains joueurs qui pour moi sont des points au PSG, et qu'il arrive enfin à ramener cette Coupe d'Europe qu'on espère tous, tout ce qui a été dépensé.
C'est important ça aussi que les joueurs qu'il a fait venir, certains joueurs qu'il a fait venir, puis qu'il puisse les faire partir. En expliquant que leur moment est passé, que
c'est ce qu'il est peut-être en train de faire avec Thiago Silva aussi, puisque s'il recrute de Lyrte, c'est peut-être.
C'est pas tout à fait la tendance sur d'autres cas. On a parlé de Cavani qui va peut-être prolonger. Autre cas, alors il est plus joueur, mais c'est quand même quelque chose de peut-être révélateur, c'est Thiago Motta. Leonardo est allé discuter avec lui hier, c'est les infos qu'on a pu avoir, pour essayer de le convaincre peut-être de rester au PSG. Motta qui a annoncé son départ et qui va se laisser le temps de la réflexion. Pas sûr que ça suffise pour faire changer les choses. En tout cas, peut-être que Motta restera dans un autre rôle grâce au retour de Leonardo.
Je sais pas, bon,
qui Motta, est U19.
Il est difficilement jugeable sur sa carrière. Sur son après-carrière, il a que fait un an avec le 19, il faut attendre un peu. Après, c'était un joueur extrêmement important dans le vestiaire et sur le terrain. Donc, je suis persuadé qu'il a des choses à apporter aussi au PSG. Quand on parle de De Ligt, peut-être en prévision de Thiago Silva, moi, je pense que Thiago Silva, il a encore au moins 2 bonnes années avec lui.
De toute façon, il est en contrat jusqu'en 2020.
Voilà. Non, mais je pense qu'il a encore au moins 2 bonnes années avec lui, parce qu'à mon avis, il a les clans. Et peut-être que De Ligt, il peut jouer avec Thiago Silva et se retrouver avec la paire Verratti-Marquinhos, qui pour moi, a très très bien marché.
Au milieu de terrain, remettre Marquinhos au milieu,
c'est possible.
Quand il a le ballon, Marquinhos, c'est quand même plus compliqué.
Non, mais c'est pas grave.
Il a pas les réflexes du
milieu. Mais c'est pas grave. Il a progressé là-dessus.
Oui, bien sûr.
Il a progressé et il a amené surtout.
Quand il est dos au but, c'est compliqué.
Ouais, mais il a amené au milieu de terrain une dimension athlétique qui manquait au PSG.
Ah, ça, c'est
certain. Donnons la parole à Guillaume qui nous rejoint, supporter du PSG qui a composé 22-16. Bonsoir, Guillaume.
Bonsoir à tous.
Salut, Guillaume.
Est-ce que retour de Leonardo, c'est synonyme tout de suite de retour de l'attractivité selon toi?
C'est surtout du respect de l'institution, parce que pour moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'hésitait pas à rentrer dans l'art à Ibra quand Ibra était là. Et là, je pense que Neymar ou Mbappé, s'ils sortent entre guillemets du rang, je pense qu'il n'hésitera pas publiquement à les remettre en place. Et ça permettra aussi peut-être à Tourelle, parce que Tourelle dernièrement qui montait entre guillemets au front, parce qu'on n'entendait ni Nasser, on n'entendait ni Antero, là il y aura quelqu'un qui, dès qu'il y aura entre guillemets le feu ou dès qu'il y aura un problème, montrera au fond pour défendre le club et faire respecter le club quand, entre guillemets, d'autres clubs, entre guillemets, rivaux, oseront faire des commentaires peu agréables.
Qu'est-ce que tu lui demanderais sur le mercato à Leonardo? Comment tu renforcerais l'équipe?
C'est déjà, c'est, je sais plus qui avait dit ça, c'est de faire, entre guillemets, d'évacuer certains, entre guillemets, moi, ce que j'appelle vulgairement, entre guillemets, des cas sociaux, type Meunier et Kurzawa, pour citer que, bon, moi, c'est les deux noms, pour moi, déjà, que je ferais partir, évacuer, directement.
Oui, mais là c'est Guillaume, ça, là c'est en théorie, ce sont les remplaçants là que tu voudrais vendre.
Oui, mais qui ont peut-être une petite valeur marchande.
Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis pas en train de dire
qu'ils ont
pas de valeur
marchande.
Mais il faut aujourd'hui, c'est pas sur tes remplaçants qu'il faut travailler. C'est aussi sur ton équipe type,
oui,
entre guillemets.
Pour moi, il y a un peu des deux. C'est pour moi, il faut travailler à la fois parce que déjà, on a vu l'année dernière qu'il manquait en quantité en termes de doublure. Pour moi, il faut travailler à la fois sur le 11 et sur le banc parce que faut pas entre guillemets, parce que c'est pour créer une cohésion, il faut pas entre guillemets empiler les talents. Parce
exactement.
Et pour moi, je veux dire, c'est ce qui a manqué au PSG, c'est une certaine cohésion d'équipe l'année dernière. Et c'est ouais. Pour moi, c'est si on renforce qu'avec des entre guillemets des joueurs confirmés ou des joueurs de talent et tout, à un moment ça va se marcher.
Ouais,
ça
mais tu vois, Guillaume, c'est faut reconnaître que c'est quand même difficile. C'est quand même un club difficile parce ils finissent les tours, enfin le premier tour avec un très bon match à Naples, un très bon match à domicile contre Liverpool, un très bon match à Manchester sur le huitième aller, et au huitième retour c'est la cata.
Ouais.
Donc en fait, c'est ça qui est difficile avec le PSG, c'est que à un moment donné, quand tu te dis ça y est, ils ont trouvé la cohésion, parce que sur ces matchs-là qu'on a dit, Liverpool, Manchester, ils avaient cette cohésion, ils avaient cet esprit de corps, ce travail d'équipe, et d'un coup, le match retour, il n'y a plus rien.
Ouais.
Et pourquoi? Et c'est ça qui est difficile, et c'est ça qui va être très difficile aussi pour Leonardo de trouver, c'est trouver très exactement les raisons de l'échec, parce que nous on spécule beaucoup, on en parle beaucoup, on en fait des caisses, mais les raisons exactes, et je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient la réponse.
Ouais. Tiens, Guillaume, sur l'actu du PSG, tends bien l'oreille et écoute ça.
Oui.
Tiens, écoute.
J'ai entendu hier.
Hier soir à Bernabéu, au stade de Madrid, lors de la présentation d'Hazard, quelques minutes avant, le public du stade madrilène qui scande le nom de Kylian Mbappé en disant « Nous voulons Mbappé ». Ça te fait peur d'entendre ça ou t'es serein?
On sait tous qui partira, et pour moi Mbappé, s'il va au Real, sera, moi je vous mets une pièce que ça sera l'été prochain et pas cet été.
Écoute,
qu'est-ce qu'a beau... Même si ce n'est pas ce que dit le porte-parole du Real Madrid qui officie sur RMC...
Oui, non, alors juste un peu de respect pour Fred Hermel quand même, qui est notre correspondant à Madrid. Mais juste, les infos qu'on a, c'est qu'Mbappé va rester quoi qu'il arrive cet été.
Mbappé et Joe Aurel dès demain.
Non, il nous fait remonter ce qui se dit à Madrid, et ils en font énormément là-bas autour de lui.
Et même les mondes catalans, madriennes, nous on se plaint du seul quotidien sportif qu'on est en France, mais là-bas, au niveau, entre guillemets, affabulation et tout, ils font...
Ah ouais, ils y vont plus fort. Merci en tout cas d'être venu sur
Merci
RMC,
à
Guillaume. À bientôt.
Merci, Guillaume. À bientôt.
Par contre, si tu t'appelles Eden Hazard.
Ah ouais, c'est horrible, non?
Ah mais c'est moche. C'est moche.
Il y avait quand même 50 000 personnes qui étaient là.
Non mais c'est moche. Le mec, je pense qu'il avait envie. Puis c'est son caractère, Hazard, on le connaît quand même un peu.
Oui,
maintenant.
Il est un peu vexé.
Il arrive un petit peu comme la star de ce recrutement.
Oh.
Et il arrive.
Tu penses qu'il l'a mal pris?
Ah bah. Mais
ils étaient là pour lui, ils étaient pas là pour
se
tromper. Mec, il est là, il va
c'était
à la présentation.
Avant
qu'il rentre,
oui,
et t'as les gens qui disent acheter Mbappé.
Non, je pense qu'il l'a pas entendu.
Il a pas entendu.
Il y avait 50 000 personnes.
Il comprend pas l'espagnol encore.
Non,
c'est
mais il y a 50 000 personnes qui sont venues pour Eden Hazard. Moi, je pense que c'était plutôt sympa que Kylian, que tout le monde ait envie d'avoir Kylian Mbappé. Je crois que c'est
plutôt logique.
C'est logique. Moi, je le suis sur Instagram. C'est tous les jours des mecs de Madrid qui lui disent viens à Madrid. Ça n'arrête pas. C'est assez impressionnant. Oui,
c'est une belle info. Merci pour cette enquête.
Non, on ne sait pas si Kylian suit Francky en revanche.
Non, je crois pas.
Ah bon. Je l'ai pas autorisé en fait.
Ah d'accord.
Je l'ai bloqué.
Non, mais là c'est pas bien grave. Quand au Vélodrome, lors de la présentation de Francky, il criait on voulait Laurent Blanc, ça c'était un peu abusé. Là, bon, c'est pas.
Ouais. En plus, c'était juste. quand je suis arrivé à Chelsea, j'ai quand même le comment on appelle ça le mec le transfert le plus cher à l'époque. Hein. Je rappelle 2,5 millions de pounds, donc ça fait les 25 millions de francs, ça fait 2-3 millions d'euros. Et je suis arrivé à l'aéroport. Et c'est moi que je suis allé voir le mec qui était en survêt de Chelsea pour lui demander, excusez-moi, c'est vous qui êtes venu me chercher? Tu vois, ouais, ouais. La diff.
Ouais, c'est notre époque. Hein, voilà.
Non, c'est surtout notre niveau.
Oui, tout. Aussi, oui.
Tout. Mais bon, Eden Hazard n'est pas champion du monde.
Non, exactement, Francky. Voilà, il lui rappelle aux Belges. Allez, voilà pour le PSG. On revient dans un instant avec notre tour des clubs qui s'arrête ce soir à Monaco. On a l'impression qu'il s'est passé là aussi 12 saisons en une à Monaco.
Elle était longue.
Vu les rebondissements.
Elle était très, très longue.
Le bilan, les perspectives avec nos spécialistes. C'est dans une seconde dans Ici, c'est Willy. À tout de suite.
RMC, Willy Sagnol. C'est Willy.
Allez, 18h30 de retour dans Ici, c'est Willy sur RMC. Et on continue à parler foot jusqu'à 20h, Jean-Louis.
Exactement, avec l'AS Monaco dans une seconde. Dans 15 minutes, il y aura également le journal moyen avec Adrien Aigouin. Salut Adrien.
Salut, on va voyager le journal moyen. Ah, on va partir aux États-Unis avec un guide de luxe, une star franco-américaine.
Ok, c'est bon là.
Frank LeBeuf. Direction les States, c'est magnifique. Avec un guide touristique extraordinaire.
Ah, c'est pour ça que tu avais l'œil qui brille en me regardant tout à l'heure. Hein.
J'ai souvent l'œil qui brille.
C'est vrai. Oui, mais là, t'es content, tu m'as trouvé une bonne connerie à raconter.
Non, c'est
ce sera dans un quart d'heure.
C'est pire que Thierry Henry.
Ah non, non.
Ah merde,
c'est...
dommage.
C'est un autre style.
C'est un autre style, ouais.
Ce sera dans un quart d'heure dans le journal moyen.
C'est pas du tout, Franck, c'est ça.
Restez avec nous.
Vous voulez dire Homas, c'est ça, plutôt que Home.
Pardon,
Mike.
Non, non, mais pardon, je croyais qu'il avait sorti. Je croyais qu'il avait sorti un gros mot. Quoi, il m'a semblé que j'avais entendu un gros mot.
Non,
je pense pas.
Jamais, Franck.
Non, j'ai expliqué ça. Je vois où il va venir.
Merci, Adrien. À tout à l'heure dans un quart d'heure dans le journal moyen. Même le vendredi, donc le Duga Tour des clubs qu'on a débuté il y a deux semaines continue direction le Rocher ce soir.
RMC, le Duga Tour des clubs, Monaco.
Oh, Monaco.
C'est terminé, nouvelle contre-performance monégasque à domicile.
Quel souffle, parce que ces petits gars, ils baissent les bras.
Quelle désillusion pour Vadim Vassiliev et pour Dimitri Ribolovlev.
Je prends la responsabilité, c'est ma faute.
Vive le prince.
Alors, tous les soirs, dans Team Duga et dans Ici c'est Willy le vendredi, on fait le bilan de la saison d'un des 20 clubs qui constituera la saison prochaine et on se projette donc sur cette fameuse saison prochaine. Tout ça avec l'un des suiveurs du club en question, un des suiveurs de la presse régionale. On est ce soir avec Mathieu Faure qui suit l'AS Monaco pour Nice Matin. Salut Mathieu, bienvenue.
Bonsoir. Merci.
Salut Mathieu.
Salut Mathieu. Salut.
Alors, une saison franchement pleine de rebondissements à Monaco, c'est même comme expression. Deux changements d'entraîneur, Jardim, Thierry Henry, de nouveau Jardim, un effectif en constante évolution, 8 nouveaux joueurs lors du mercato d'hiver et un changement de direction en plus avec le limogeage de Vadim Vassiliev remplacé par Oleg Petrov. Toute cette instabilité, ça s'est conclu par une 17e place en Ligue 1 pour Monaco, un maintien obtenu très tardivement. Willy, déjà, comment juger la saison de Monaco? Ça paraît difficile de faire pire l'an prochain.
On la juge tous de la même façon. C'est mal parti, c'était planté sur le recrutement l'année dernière, en payant très cher des joueurs qui n'avaient pas le niveau. On pense à des joueurs comme Barreca, par exemple, l'arrière gauche,
10 millions d'euros, ouais.
Qui était une énigme, mais
il est parti au mercato d'hiver.
Tout le monde.
Ouais. On a plein, hein, Chadli, Aoulou.
Non, mais c'est enfin Aoulou encore. Je trouve qu'on est dur avec lui.
Parce 14 Aoulou, millions
était,
d'euros quand
non,
même.
Non, mais il était. Attends, oui, mais c'est pas lui qui est responsable du montant.
Bien sûr, bien sûr. Mais bon,
mais
Aoulou, je veux dire,
il était à Strasbourg, il a fait des bonnes choses.
Oui.
Il arrive à Monaco dans un. C'est la première fois qu'il est dans un club un peu mieux. Donc, je pense qu'il faut.
Non, mais
je
les ai notés. Pelé, Grand Cyr aussi, qui a été prêté lors du mercato d'hiver.
Il y a eu. On a l'impression que. Qu'ils étaient obligés de vendre certains joueurs parce que les joueurs voulaient plus rester et qu'ils se sont retrouvés dans une situation d'urgence où ils se sont dit bon bah puisqu'on n'arrive peut-être pas à avoir les joueurs qu'on veut, autant qu'on prenne du volume, oui. Qu'on en prenne autant qu'on peut, parce que sur tous ceux qu'on va prendre il y en a peut-être deux ou trois qui vont réussir.
Oui.
Et mais ça a été une catastrophe. T'as Jardim là-dessus qui aussi peut-être commençait, je veux pas dire qu'il commençait à être fatigué, mais il avait fait quand même quelques années
à
Monaco.
Il l'a dit lui-même. Hein.
Voilà, il avait quand même fait quelques années à Monaco. Il avait fait une saison exceptionnelle peu de temps avant, enfin 12 mois avant.
Ouais.
C'était voilà, ça sentait un peu le roussi dès le départ, mais pas autant que la saison s'est déroulée.
Oui.
Et après ça, c'était enchaînement d'erreurs.
Oui.
Le recrutement l'année dernière a été une catastrophe. Tu vis Jardim pour mettre un néophyte. On veut pas parler de ses compétences aujourd'hui, mais un néophyte qui dans les situations de crise, tu mets des mecs qui ont l'habitude des situations de crise, comme dans toute entreprise classique. derrière, ouais, ça marche pas, connerie. Tu rattrapes, tu fais revenir un mec, tu vires le directeur général, donc t'oublies de dire un peu tout ce que aussi le directeur général avait fait de bien aussi les 5-6 premières années, et puis tu finis, tu reprends quelques points là, fin janvier, début février.
Tu penses c'est que
c'est
bon
là, c'est ces points-là qui te permettent de te sauver.
Ah oui. Avec 36 points seulement.
Parce que sur les 7-8 derniers matchs, ils font partie de. Ils sont encore plus bas que la charrette normalement.
Mathieu, le point de départ, donc, c'est ce recrutement raté l'été dernier. Comment on l'explique à Monaco?
Ben en fait, c'est simple. Monaco, pendant 3-4 ans, ils ont eu le nez creux sur tout. Ils allaient chercher Bernardo Silva dans l'équipe B de Benfica, ça marchait. Fabinho, que personne ne connaissait, ça marchait. Ils mettaient Benjamin Mendy, équipe. Donc pendant 2 ans, là, il y a l'été dernier et cet été aussi, ils sont partis du principe que de toute façon ça a toujours marché, pourquoi ça ne marcherait pas encore? Donc ils ont tenté plein de choses différentes, en mettant de l'argent comme sur Willem Goebbels qui a 16 ans, 20 millions d'euros, Pellegrini 25 millions d'euros, donc ils ont dépensé d'argent, quasiment 200 millions d'euros en 2 ans, et finalement à part Golovin, il n'y a pas un joueur qui a été capable de s'inscrire dans la durée dans cette équipe. Donc en fait je pense qu'ils ont été un peu... qu'ils ont pris la grosse tête, mais ils se sont vus un peu trop beaux sur le mercato en se disant bah voilà, c'est bon, on sait faire maintenant, on a le nez creux tout le temps, ça marche tout le temps parce qu'on est Monaco. Et dès que vous ratez un ou deux mercato, bah, ça arrive ce qui arrive là, vous vous plantez royalement, sachant que dans le même temps, vous vendez tous vos meilleurs joueurs, parce qu'en 2 ans, vous perdez Bakayoko, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Kylian Mbappé, Thomas Lemar, Joao Moutinho, Fabinho, et tout ça, il faut les remplacer quand même. Et quand vous en remplacez même pas un seul, bah, vous êtes vraiment dans le mur et ils ont été dans le mur très très tôt.
C'est important ce qu'il dit Mathieu, parce qu'il dit quand même que c'est la première année depuis quand même 4-5 ans que Monaco se plante.
Rate,
ouais. Et quand même, tu peux pas avoir une vie d'un club linéaire où à un moment donné, ton recrutement fonctionne à chaque fois. Il y a eu tellement de départs, ils ont forcé encore plus la formation en voulant recruter, comme l'a expliqué Mathieu, des très très jeunes. Et puis il y a une défaillance des plus anciens. On en parle de Gli, de ceux qui restent, ouais, Gli, Emerson notamment,
logique,
du gardien de but, Subasic, qui se blesse mais qui est pas très très bon.
Ça n'a pas été anticipé.
Ça n'a pas été anticipé, non plus.
Mais c'est d'une logique. C'est logique que les mecs qui sont restés, les Falcao, les Gli, les Emerson,
soient moins bons.
Mais c'est normal. Les mecs en 2 ans, ils voient partir les meilleurs joueurs. Il ne voit rien arriver derrière, ou en tout cas pas de joueurs confirmés.
Ouais, mais tu sais que des jeunes, Monaco, ça fonctionne comme ça. Et tu fais 960 millions de bénéfices. Pourquoi? Parce que tu prends, tu vends. Ça fonctionne comme ça. Donc quand si tu restes à Monaco, t'es au courant de la politique du club.
Il y a des trucs mathématiques. Hein, quand tu vends un joueur 200 millions, par exemple, et que tu recrutes, 10 joueurs
à 20
à 18 millions.
Ouais.
Donc en théorie, tu peux te dire j'ai gagné 20 millions, mais en fait non, tu te fais tordre parce que tu te balances 18 commissions d'agents.
Oui.
Et ça, c'est ça qui a coûté cher au club.
Ouais.
Ce sont les à chaque fois quand tu vends un joueur ou quand tu achètes un grand joueur, c'est une commission que tu peux réussir à dealer avec l'agent, ça peut passer. Mais quand tu fais autant de transferts, tu as chaque fois des commissions qui partent dans tous les sens. Aujourd'hui, tous les joueurs ont dans leur contrat si jamais je suis vendu, j'en sais rien, un joueur qui a acheté 10 dans son contrat, il y en a plein, c'est si je suis vendu 40 millions, par exemple, si je suis vendu, tout ce qui est au-dessus de 40 millions fait 50-50.
Ouais.
Donc si demain tu vends, t'achètes un joueur 10 que tu le revends 80, en fait c'est que sur 30 millions tu vas te faire 50-50, ouais. Il va te rester 45 dans la poche, il va te rester 60.
Ouais, oui, c'est
plus les commissions. Donc ça a été
oui, mais enfin,
grand n'importe quoi.
Peu importe, moi je dis simplement que les joueurs qui sont plus anciens, expérimentés comme Glick, Jemerson, Falcao notamment, connaissent la politique du club, savaient qu'en restant ils allaient se retrouver avec des jeunes et que c'est toujours un risque. Mais alors, ça faisait partie du deal. C'est eux qui n'ont pas été bons.
Quand tu t'appelles Jemerson par exemple, que tu laisses que Mendy part et qu'à un moment donné tu vois arriver Barreca, mais tu dis mais c'est pas possible. Et ça forcément, ça y joue sur le moral du mec, sur sa capacité à remobiliser, à se remettre dedans. Forcément,
Là, je vais pas te suivre. Je trouve que le mec, il a fallu faire son boulot. C'est pas pour ça qu'il doit être moins bon.
Il passe d'un mec qui est titulaire en équipe de France à une truffe.
Et il est bon parce que l'autre à côté de lui, il est bon alors. Ça veut dire qu'il est pas capable de leader.
Tu sais comment c'est le foot aussi.
Ah ouais, mais toi, t'as été avec des jeunes à côté de toi ou devant toi et tu les as aidés, tu les as formés et ça t'a pas rendu moins bon. C'est ça que je veux dire, c'est que
non, mais
à eux,
mais
c'était à eux d'amener la charrette.
Avec des joueurs à côté de toi, ça te rend meilleur.
T'as aidé aussi. Alors, Mathieu Faure de Nice Matin, à quel mercato doit-on s'attendre à Monaco? Parce que donc le directeur général a changé, il y a beaucoup de joueurs sous contrat, des joueurs qui ont été achetés très cher avec des gros salaires, donc faut s'attendre à quoi?
Bah, le souci, c'est qu'ils ont 74 joueurs sous contrat. Donc c'est énorme, sachant que dans les 74 joueurs, il y a des joueurs qui ont joué en pro cette année qui ne sont pas contrat pro, comme le fils de Lilian Thuram ou Julian Biancone. Donc là, pour l'instant, la première l'urgence, c'est de dégraisser à tout va. Donc c'est vraiment de se séparer de... Ils avaient 26 joueurs prêtés cette saison à l'extérieur. Sur les 26, il n'y en a quasiment aucun qui a une chance ou qui a le niveau pour jouer à Monaco. Donc il y a une vraie... voilà, faut dégraisser à mort. Il faut faire partir 30 joueurs sans les brader pour autant.
C'est incroyable. Donc
ça, c'est très compliqué.
Enfin, tu vas à Chelsea, c'est pareil. Hein.
Ouais. Vas-y, grand club,
Et comme par hasard,
Mathieu, finis. Parce que vous avez un directeur sportif qui est Michael Emenalo, qui est là depuis un an et demi.
Et qui est aujourd'hui au placard.
Donc vous avez un directeur sportif qui a un très bon salaire et qui ne sert à rien puisque c'est pas lui qui fait le mercato. Donc il y a une logique de politique sportive à trouver très vite avec un Oleg Petrov qui est arrivé il y a 4-5 mois, qui doit déjà comprendre comment fonctionne le club, comment fonctionne le football, comment fonctionne le football français. Donc ils sont dans l'urgence et l'urgence absolue pour l'instant, c'est de vendre.
Attends, oui, comme on l'a dit, Franck l'a dit, c'est ce que je voulais dire. Le directeur sportif qui arrive, qui fait qu'aujourd'hui t'as 300 millions de joueurs sous dans l'effectif.
74.
Il faisait la même chose à Chelsea. Chelsea, c'est quoi? C'est une centaine de joueurs dans l'effectif avec tous les joueurs qu'ils prêtent. À un moment donné, il faut arrêter de toujours filer les carnets de chèques à certains mecs. À un moment donné, stop. Parce que on parle aussi, c'est comme tu dis, Mbappé, quand il part, je sais pas, il gagnait peut-être 300 000 euros à Monaco. Si avec les 200 millions, t'achètes 6 joueurs, tu vas pas acheter 6 joueurs à 50 000.
Ouais.
C'est 6 joueurs à 100 000. Donc déjà, ta masse arrière, elle explose aussi.
Mais, donc, 74 joueurs sous contrat, 26 prêtés. Ça veut dire qu'il reste près de 50 joueurs tous les jours à l'entraînement.
Non, mais c'est un peu. Si tu veux faire du bon travail, il te faut maximum 25 joueurs.
Ouais, c'est ça.
Au-dessus de 25, tes séances d'entraînement
comment
peuvent
ça
être
peut être
ni dynamique
ça.
Ni intense. Non, c'est impossible.
En plus, si vous prenez l'équipe de Monaco actuelle, qui vous gardez objectivement, qui peut faire partie de l'équipe pour la saison prochaine? Tu sais que Falcao, il va sans doute s'en aller. Il y a Ronny Lopez peut-être qui a fait une saison compliquée, qui peut faire partie de ce projet-là. Serge Fabregas, peut compter peut-être sur lui. Mais après les autres, la défense,
vainqueur.
Et Golovin, voilà. Ouais. Les vainqueurs, on l'a peu vu.
Et les gars, c'est
donc voilà, le vainqueur, il est en fin de contrat. Il était prêt.
Voilà.
Donc
ça fait trois joueurs, hein, parce que bon, il y a Adrien Silva. On ne sait pas s'ils vont le conserver. Il y a Gelson Martins qu'ils ont gardé. Mais c'est vrai que sinon, il faut dans toutes les lignes, il faut recruter.
Surtout, ce qui va être compliqué. Alors, moi, ils vont réussir à dégraisser. Même si c'est très dur de dégraisser dans le foot, ils vont réussir. Le problème, c'est que ça va prendre du temps. C'est-à-dire que t'as le mercato. Je ne sais pas s'il finit le 31 août ou le 2 septembre. Je ne sais pas. Mais fin août. Ça va être entre le début juillet et fin août, t'as Jardim, entre les stages de préparation, les entraînements, les matchs, son effectif, mais il va être remodelé à chaque fois, ça va être très très compliqué. Je pense que Monaco, sur le début de saison, ça va être un début de saison difficile.
Et lui, Jardim, il est comment, Mathieu? Il est prêt à accepter tout ça? Il n'y a pas de risque qu'il retombe un peu dans la fatigue du début d'année dernière?
Il est parti avec un énorme chèque. Il est parti ensuite. Il a pris 3 mois de vacances. Il a été au ski à la Colmiane. Il a été en vacances à
Disney.
Il a pris de l'eau et puis il est revenu avec un meilleur contrat qu'il avait avant. Donc lui, il a tout intérêt à rester parce que si ça se passe mal, il se fait virer. Donc il prend un gros chèque et c'est pas de sa faute parce que chaque année on lui dilapide ses joueurs. Et s'il réussit à être podium, comme d'habitude, on dira que c'est un génie. Ouais. Lui, il a la meilleure position dans ce club. Donc, il a fait du très bon travail. Il fait du très bon boulot. Mais lui, il n'a aucune pression, j'ai envie de dire.
Ouais, mais là, je pense que ton raisonnement, il est, quand tu dis qu'il a la meilleure position, ton raisonnement, c'est simplement un raisonnement économique. Moi, je peux vous dire, quand un entraîneur, avant un début de saison, quel que soit son salaire, quel que soit le club, il a 70 joueurs sous contrat, il sait qu'il va y avoir 30 départs ou 35 départs, il va y avoir 5-6 arrivées et ça va durer tout l'été. Moi, je peux vous le dire que l'entraîneur, il se sent pas être dans la meilleure des situations au club. Parce que c'est compliqué, c'est lui qui gère ça quand même tous les jours. Donc, alors oui, contractuellement, financièrement, c'est peut-être lui qui a la meilleure position. Mais faut pas oublier que Jardim, c'est un mec qui aurait pu se barrer au mois d'octobre, il aurait pu se barrer pour gagner 25 millions d'euros par an en Chine. Il l'a pas fait. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, lui, ce qu'il aime, c'est le football, le vrai football, le terrain. Et s'il est là aujourd'hui, il sait que c'est une position très difficile.
La conclusion.
Ils ont du pognon. Moi, non, la conclusion, c'est que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs et qu'il va falloir dégraisser, mais surtout recruter quand même pour être compétitif. Parce que les joueurs, sur qui on pouvait compter, ben, sont plus là, n'ont plus le niveau où certains vont partir, puisqu'on parle de Falcao, ça va être très compliqué. Mais moi, je me propose d'être entraîneur à Monaco, parce que tu prends des chèques, mon pote.
Ça t'arriverait pas, combien...
Non, mais bien sûr, mais ça m'intéresse même pas. Mais le truc, c'est que tu te dis, mais ils ont vraiment du pognon, non, parce qu'entre le chèque, ils ont filé à Jardim, celui qu'ils ont filé à Thierry Henry.
Bien sûr, les joueurs sous contrat.
Toi, t'es français, il faut que tu payes des impôts, Franck. Donc,
ça, c'est le chèque qui serait déjà à la moitié. Tu t'en prends 15 ou 3 mois.
Allez, on va voir la moitié.
Je veux simplement finir sur une chose. Monaco a toujours eu des objectifs élevés, enfin ces 6-7 dernières années, 7-8 dernières années. Je suis persuadé que cette année, dans la communication du club, en début de saison, vous allez voir, vous allez pas avoir
profil bas.
Ça va être profil très bas, vous n'allez pas avoir, on veut finir européen.
Merci Mathieu Faure.
Pourtant, l'objectif a été annoncé très vite par Oleg Petrov il y a 10 jours, c'est terminer sur le podium et aller en Ligue des Champions.
Ouais, enfin Petrov, pour l'instant, il est encore en train d'apprendre ce que c'est le football et que ça se joue à 11 sur un terrain. Ouais. Déjà.
Merci Mathieu Faure, l'actu de l'AS Monaco.
Merci Mathieu.
Dans Nice Matin, en plus d'RMCSport.fr, grâce à Yann Pécheral, notre correspondant. Il est intenable, mais c'est bien, c'est pratique de l'avoir à portée de main. Dans un instant, le journal moyen, Adrien Aigouin. Tu n'auras pas de chèque, Francky, ça sert à rien.
Mais non, mais attends, il y a des mecs qui ont parlé au foot.
RMC. Willy Sagnol. Ici, c'est Willy.
Allez, 18h48, vous écoutez toujours Ici, c'est Willy sur RMC. Et dans un quart d'heure, place au LOSC, mon Jean-Louis.
Exactement, on va débattre autour du dauphin du PSG. C'est la mi-temps en Coupe du Monde féminine. 2-0 pour l'Italie face à Jamaïque. Et officialisation du PSG il y a quelques minutes. Antero Henrique quitte le club et le PSG le félicite pour ses 2 ans de travail. Oh, tout de suite, c'est le journal moyen. Adrien.
Il a pris un chèque lui aussi.
C'est du l'humour.
Oui.
À la une du journal moyen, d'ici c'est Willy aujourd'hui sur RMC. Frank Leboeuf nous fera visiter les States et c'est pour ça qu'on aime Frank.
Cool, ça, c'est un bon guide. Hein.
Question pour du pognon. Ouais. Parce que.
Ah, ça fait 3 jours que tu
l'annonces. Vous êtes 4, il y en a 2 qui ont un peu de pognon. Je sais pas qui.
François et Jean-Louis. Hein.
Bah, énorme. Ah ouais. Énorme. Si tu savais.
Et puis, quel est le niveau d'anglais des supporters de foot français ? Sont-ils bilingues comme Franck ? On va vérifier ça. Vous êtes prêts ?
Oui.
Vous écoutez RMC. Alors aujourd'hui, petit quiz d'entrée de jeu là. C'est le nombre de sélections d'un joueur moi que j'adorais, Jean-Marc Ferreri. Il a combien de sélections ?
41.
40. Déjà, mais.
42.
39, 40. 46.
44.
Ah, non, 43. Non.
30. 37.
Ouais.
37 sélections, Jean-Marc.
Super joueur.
Super joueur. Ah, le problème, c'est qu'il arrive juste après Platoche et du coup, tout le monde le compare. C'est
compliqué comme c'est François nul. Brisson, des joueurs, des super joueurs qui n'ont pas eu une carrière parce que.
Ouais,
j'adorais François Brisson.
On parle de foot, Jean-Louis.
Comme Franck Leboeuf après Laurent.
Il joue à Lille.
Bah, m'en fous, moi, j'ai joué une finale de Coupe du Monde.
Voilà. Tout ça, c'était pour vous dire que c'est le 37e journal moyen des services. C'est Willy, c'est nul. Hein.
T'arriveras pas.
En direct de la rédaction de RMC Sport, le journal moyen, d'ici c'est Willy, Adrien Aigouin.
Nous sommes dans le RMC Football Show avec Jean-Christophe Drouet et Franck Leboeuf. Franck Leboeuf donc dans son rôle de consultant foot, mais Franck a plusieurs casquettes. Franck est ce qu'on appelle multicarte. Discussion sur le Real Madrid avec un auditeur au 32-16, sur le débat sur Benzema. Benzema a publié un tweet, il est en vacances aux États-Unis. Mm-hmm. La discussion d'Evy un petit peu, Santa Monica, tout ça, parce que Mbappé est aussi en vacances là-bas. Mmh. Et là, c'est plus le consultant foot qui parle. Il enlève sa casquette de consultant foot. C'est Frank, l'américain. Il met sa petite casquette américaine. Donald Leboeuf.
Non, quand même pas. Non, tu peux pas.
Barack Leboeuf.
Voilà, ça c'est bien.
Prends le relais. Et là, en direct, c'est un festival, on visite les States.
C'est très sympa.
Ouais. Santa Monica,
Oui, il y a un petit aéroport privé. Moi, je joue au foot à côté, c'est pour ça que je connais l'aéroport privé. Comme un privé, bien sûr. Mais je trouve que ouais, c'était plutôt sympa. Sauf le June Gloom. Je vous expliquerai peut-être une fois ce que le June Gloom.
Et là, c'est les mecs, tu sais, ils savent un truc, ils te le casent comme ça. Et fait un jour, je vous expliquerai. Alors tout le monde dit, bah vas-y,
bah,
explique-nous.
Vas-y maintenant, bah oui.
Come on, Frankie. Et là, on est
entre
aux States.
Entre la froideur de l'océan Pacifique, ouais, à Los Angeles, qui où est à peu près 17 degrés, et le désert chaud du Nevada, l'air se rencontre et crée de la buée. Et donc, météo. Il fait rarement beau le matin à Santa Monica, Venice Beach, tout ça, au Malibu.
C'est un petit peu la même chose à San Francisco, non ?
C'est ça. Encore pire. Et on appelle ça le June Gloom, oui, c'est-à-dire le brouillard de juin. Et c'est pour ça que les gens sont venus habiter à Beverly Hills. Beverly Hills est le meilleur endroit à l'abri du vent, sans trop de chaleur, sans le June Gloom.
C'est pour ça que ça a une autre si bonne renommée, Beverly Hills.
C'est pour ça que c'est devenu le coin des riches. Parce que c'était le meilleur endroit des environs de Los Angeles.
Il y a tout là.
C'est très intéressant.
Franchement, c'est pas mal.
Je sais pas.
Gloom.
GL.
C'est quand même mieux de dire brouillard, buée. Oui. La première fois, tu as dit.
Effectivement.
Buée,
ah, buée. C'est vrai qu'on n'a pas compris.
C'est pas un brouillard parce que ça fait de la buée. Quand tu sais qu'une condensation, on appelle ça de la buée. C'est pas le brouillard.
Oh là là, discussion.
C'est pas du brouillard. Tu veux passer encore dans le genre moyen, continue.
Moi, je suis sûr que c'est ton intervention la plus intéressante de la saison.
Mais oui, mais comme je ne parle pas plus sur le foot. Tu sais que j'ai failli passer à la porte en face à BFM. Faire la météo américaine.
Il y a météo, il y a pourquoi Beverly Hills,
il y a tout là, il y a tout.
Sans transition. Le pire, c'est Jean-Christophe Drouet. Ouais, San Francisco, c'est pareil.
Il se prend aussi pour un américain.
Il était à fond avec moi. Vous êtes des ingrats. C'est parce que vous n'étiez pas dans cette émission, vous êtes jaloux de ne pas avoir participé à cette émission.
Entre le guide touristique Franck Leboeuf et la leçon de géopolitique de Manu Petit.
Ah, on est complet. Sans transition, on parle anglais. On va parler anglais. Toi, Franck, okay. Qui est bilingue, donc ça va te parler.
Willy aussi.
Ouais, mais pas...
Il est marié à une anglaise.
Il est même
une vieille casserole est ressortie sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de défauts sur les réseaux sociaux. Parfois, ça, c'est pas mal. C'est assez exceptionnel. Nous sommes en 2017, mois de juin. Il y a France-Angleterre au Stade de France avant le match. L'émission quotidien TMC sont des petits coquins. Un peu comme nous, se baladent aux abords du Stade de France. Ils se font passer pour une télé britannique. Ah, ils demandent à des supporters français de répondre en anglais. Franchement, c'est ressorti là. C'est exceptionnel. Il y a un supporter français très gentil qui accepte. S'il accepte, c'est qu'il parle anglais, forcément.
Hi, how are you?
Je suis français.
But how are you? Can you speak in English?
Thank you very much. Thank
Why you. Are you here tonight?
J'ai compris autre chose.
Très bien. Respect du haut anglais. Adversaire très fort et très respectueux sur le terrain.
Why do you think that Giroud is the best French player?
Yes, he's a Giroud.
Last question, do you know who is English Prime Minister?
Et là, hésitation, ça va arriver.
Yes, I am.
Merci. C'est exceptionnel. C'est méchant. C'est un peu méchant.
Ah oui, le pauvre.
Mais est-ce qu'au moins il a fait l'effort?
Même la fille qui pose des questions, c'est même pas poser des questions.
Non, mais déjà, déjà, si tu l'écoutes parler, tu sais qu'elle est française. Qu'elle est française. Déjà,
ouais, ça vaut pas Jacques Santini à Tottenham quand tu présentes.
Oh, I am very happy to be in the big club Tottenham. Tottenham.
Merci Jacques. Merci. Sans transition, question pour du pognon.
Alors, Jean-Louis.
Parce que je vais tester vos connaissances en pognon, en business, parce que vous y connaissez quand même. Le magazine Forbes américain a publié le classement des 100 sportifs.
Les mieux
tous
payés.
Tous sports confondus, les mieux payés.
Du Gary.
Entre juin 2018 et juin 2019, d'accord. Tout revenu confondu. Salaire plus sponsor, partenariat, etc.
J'ai vu ça.
Première question, il y a une grande première dans ce classement qui a été créé en 90. Une grande première.
C'est un joueur de
c'est
foot.
C'est un golfeur.
Ça concerne le haut du.
Ah oui, un joueur
de foot.
Montant.
Pour la première fois, un joueur de foot est le mieux payé.
Pour la première fois.
Et c'est
mieux que ça, Francky.
Je l'ai. Le podium.
Le podium.
Que des footballeurs. Que des
trois footeurs pour la première fois de l'histoire de ce classement.
Pas joué exprès,
un, Messi, 112,5 millions d'euros sur un an. Cristiano, numéro 2, nul, 96
et
millions.
Ouh.
Et troisième,
Neymar,
92 millions. Deuxième question. Après ce trio, quel est le footballeur qui arrive en suivant? Il arrive à la 44e place.
Mbappé.
Énorme surprise. C'est pas Kylian Mbappé.
Pogba.
Paul Pogba est le quatrième joueur de foot le mieux payé au monde. Wow. Il gagne le plus d'argent.
T'as lu aussi le classement, mais tu ne le dis pas. C'est pas la différence.
J'ai vu qu'on parlait de Griezmann, on parlait de 33 millions. Griezmann,
juin 2018, juin 2019, c'est 24,4 millions. Il est 75e.
Bravo.
Et, tout sport confondu, quel est le plus jeune dans ce top 100?
Mbappé.
Kylian Mbappé, 55e, 27 millions d'euros entre juin 2018 et 2019.
Kylian Mbappé, les gars, faut se couvrir.
Ah, mais là, c'est mois de juin 2018, ça va.
Qui est la première femme? Première sportive. Ah, tu le sais pas, ça hein?
Je le sais, mais j'ai un trou de mémoire, je vais te laisser le dire.
C'est pas dans le foot, c'est dans le tennis. C'est Serena Williams.
Ah, toujours.
Ah, elle, là, c'est elle est loin, loin, loin dans le classement. Je crois qu'elle est au-delà de la 60e place.
François Pinet.
Bah, sur l'argent, il est bon. Merci,
mais
Adrien.
Quoi, si les week-ends, c'est pas quoi faire, viens avec moi. Ah, viens passer le week-end.
Encore une invitation.
Moi, tu me régales pas.
Mais je t'ai déjà dit non.
Moi, je pose des questions.
Oui,
tu réponds.
Pour faire quoi?
J'ai d'autres choses à faire. Imagine, il est à côté de toi. T'as même plus trop besoin de regarder ton téléphone.
Des précisions, quoi.
Tu demandes à François Pinet.
C'est, ouais,
oui, c'est une sorte de OK Google, un truc
Wikipédia,
ça,
ouais, quoi.
Merci Francky.
Okay, bon plaisir.
Bon week-end sur les planches. On revient dans un instant avec Lille au programme.
N'importe quoi.
La saison prochaine, l'équipe sera-t-elle forcément moins compétitive avec le mercato qui se prépare? 32-16 pour débattre avec nous. A tout de suite.
RMC, 18h-20h. Ici c'est Willy.